te pardonne. Bonjour. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Pendant que je me place et que vous tournez, je vais donner quelques nouvelles de la famille Marquis. Vous savez que j'ai commencé des études en théologie. Ça fait maintenant déjà 2 ans que je suis à temps plein aux études. Le temps passe vite. Et puis, il y a des gens qui, des fois, se demandent qu'est-ce qui se passe avec nous, comment ça avance les études. Et je voulais juste vous donner quelques petites informations, comment ça va. J'ai commencé la formation à temps plein il y a 2 ans. Donc, puis c'est un programme que j'ai moi-même organisé sur 4 ans. Donc, il me reste maintenant encore 2 ans. Et puis, j'entame la 3e année. Ça a commencé cette semaine, les cours. Et puis, je suis reconnaissant à plusieurs égards envers le Seigneur et je voulais vous partager quelques bénédictions. Par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Premièrement, je suis reconnaissant envers Dieu pour mon épouse. C'est déjà parti. qui me soutient, qui m'appuie dans ce plan que Dieu a pour moi. Je sais que ce n'est pas toujours facile pour Cynthia, l'horaire chargé, les études, le ministère, etc. Mais je vois vraiment que Dieu fait une œuvre dans sa vie. Et puis, je rends gloire à Dieu pour ça. Dieu répond à tous mes besoins aussi. Je suis vraiment reconnaissant envers Dieu de pouvoir étudier à temps plein, étudier la parole de Dieu sans avoir à se soucier de quoi que je vais manger ou si j'ai assez d'argent dans mon compte de banque. Le Seigneur a placé sur le cœur de certains frères et sœurs de subvenir à mes besoins financièrement et je suis vraiment reconnaissant envers Dieu pour ça. Je n'ai pas à m'inquiéter et puis c'est vraiment une bénédiction parce que je sais que ce n'est pas tous les étudiants qui peuvent bénéficier de ce soutien-là, et je rends gloire, toute la gloire à Dieu pour ça. Je remercie le Seigneur aussi pour l'appui du Conseil des anciens et de toute l'Église, de l'espoir aussi dans ces études-là. Vous me donnez l'occasion d'exercer mes dons ici dans le service, à l'Église locale, dans le service du Seigneur, et c'est vraiment pour moi une bénédiction, une joie de pouvoir servir Dieu avec vous. Et puis, justement, c'est le Seigneur qui me donne cette joie-là de le servir, et je remercie Dieu pour ça. Et pour votre soutien aussi dans la prière. Je suis reconnaissant envers Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui prient pour nous, pour moi, dans cette formation-là, et puis qui prient aussi pour les autres anciens de l'Église. Et je suis reconnaissant envers Dieu pour ça, parce que sans le soutien dans la prière, sans l'appui des frères et sœurs dans la prière, je ne sais pas comment on pourrait faire. Dieu serait là, c'est sûr, Dieu est toujours là, mais je pense que Dieu apprécie nos prières et Dieu agit à travers nos prières aussi. Yannick a mentionné récemment, et puis c'était un peu lors du départ de Normand, que la possibilité pour Cynthia et moi de quitter pour les études, et puis certains sont venus me questionner à ce sujet-là, qu'est-ce qui va arriver avec les Marquis, ils s'en vont-tu, ils s'en vont-tu pas? Je voulais juste vous donner des nouvelles là-dessus. Premièrement, ma vie est entre les mains du bon berger, c'est lui qui dirige ma vie, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais les plans sont pour les suivants, pour terminer mes études que je fais présentement avec... Je suis inscrit dans une maîtrise en divinité avec le Southern Baptist Seminary. J'ai un certain nombre de crédits que je peux faire à distance. Et ce séminaire-là est aux États-Unis. Et puis, j'arrive à un maximum de crédits que je peux faire à distance. Donc, il y a des bonnes chances que je doive partir pour un an l'an prochain, l'année 2010-2011. C'est l'année où ce qu'on planifie, selon, dans la grâce de Dieu, dans la volonté de Dieu, de quitter pour aller terminer le programme d'études. Pour compléter tout ça. Après, qu'est-ce qui va arriver? Ça, je ne sais pas. J'aimerais ça, mon cœur est attaché à l'Église de Longueuil, à l'Église de l'Espoir, mais on cherche la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu va m'appeler ici à servir à plein temps ici? Est-ce que Dieu va m'appeler ailleurs à implanter une église? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais c'est Dieu qui dirige ma vie. Et puis, comme Normand disait lorsqu'il est parti, ça c'est une chose que j'ai retenue, notre vie est entre les mains du Seigneur, on ne s'appartient plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puis, c'est lui qui dirige ma vie maintenant. Alors, on ne sait pas, on prie là-dessus et on cherche la face de Dieu. Alors, si vous voulez prier pour ça, que Dieu me donne la sagesse dans tout ça, dans les décisions qui s'en viennent, de qu'est-ce qu'on doit décider, que Dieu me donne aussi un cœur d'un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. La parole de Dieu nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu et David... j'imagine que vous devez le savoir déjà, est un de mes personnages préférés à cause de la louange dans les Écritures, les bénédictions que cet homme-là nous a apportées dans les psaumes, etc., la louange. Alors, je préfère la même prière. « Seigneur, fais de moi un homme selon ton cœur. » Et puis, vous pouvez prier aussi, c'est ça, pour la direction, et puis aussi pour Cynthia, qui, avec les trois enfants, les nouveaux-nés qui viennent d'arriver à la maison, a besoin d'énergie, a besoin d'un mari qui la soutient aussi. Priez que le Seigneur la bénisse dans cette tâche-là. Voilà, c'était les nouvelles. Si jamais vous avez d'autres questions, vous savoir, ou vous voulez prier plus précisément ou quoi que ce soit, gênez-vous pas à venir me voir. Ça va me faire plaisir de vous partager ce que le Seigneur est en train de faire. Alors, si vous êtes avec moi dans Éphésiens 2, on va lire ensemble le passage dans Éphésiens 2, les versets 1 à 10, avant d'aller dans un mot de prière. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, on veut te rendre grâce pour ta parole. Parce que par ta parole, Seigneur, tu nous parles, et ta parole est la vérité. Seigneur, tu as fait une prière avant de quitter la terre, avant d'aller mourir sur la croix. Tu as dit, tu as demandé au Père, sanctifie-les par ta parole. Et c'est ma prière ce matin, que tu puisses venir me sanctifier par ta parole. Que ces paroles que tu as mises par écrit pour nous ce matin puissent pénétrer mon cœur, Seigneur, pénétrer chacun de nos cœurs, afin qu'on puisse les mettre en pratique, vivre pour toi, pour ta gloire. Car toi seul es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Et je te prie que tu puisses être avec chacun d'entre nous, que tu puisses calmer nos cœurs et nos pensées, afin qu'on puisse être attentif à ce que tu as à nous dire. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. La mémoire est une faculté qui oublie. Si vous saviez combien de fois j'ai entendu parler cette expression-là dans ma vie. La mémoire est une faculté qui oublie. Et c'est vrai. C'était mon professeur de cinquième année qui n'arrêtait pas de répéter cette phrase-là. La mémoire est une faculté qui oublie. Et vous vous doutez probablement pourquoi elle nous disait ça. Elle ne voulait pas qu'on manque un devoir qu'elle avait donné et qu'on ne fasse pas nos devoirs. Donc, elle voulait qu'on fasse nos devoirs. Et pour ça, elle disait, la mémoire est une faculté qui oublie. Écris-le dans ton agenda. Et puis, si parfois, elle donnait un devoir à faire et puis quelqu'un disait, « Ah non, c'est correct, je vais m'en rappeler. Oh boy, la mémoire est une faculté qui oublie. Écris-le. » Et puis, s'il y a une chose que je n'ai pas oubliée, c'est que la mémoire est une faculté qui oublie. Elle a tellement répété que je m'en vais en souvenir toute ma vie. Si vous parliez à mon épouse, elle vous dirait elle aussi que ma mémoire est réellement une faculté qui oublie. Oh boy, les hommes probablement, vous êtes un peu comme moi aussi. Partir à l'épicerie avec une liste d'épiceries en tête. Oh boy, non, là, ça ne marche pas. Hein? Si ça dépasse 3 articles, oubliez ça, il en manque, c'est sûr. Si tu y arrives, c'est vrai, parce que ça arrive 95% du temps. Alors, on a besoin d'écrire la liste pour s'en souvenir. Mais j'ai entendu dernièrement, ça parce que la liste d'épicerie, ce n'est pas si grave que ça si on oublie ça, mais j'ai entendu dernièrement quelqu'un qui avait oublié que c'était l'anniversaire de son mari. Oh boy, là, ça, c'est une autre histoire, oubliez ça. ou encore oublier l'anniversaire de mariage. Oh. Ça, c'est des choses un petit peu plus importantes qu'on risque d'oublier. Mais dans la parole de Dieu, il y a des choses importantes aussi que Dieu a mis par écrit pour pas qu'on les oublie, pour qu'on les garde dans nos cœurs, pour qu'on s'en rappelle régulièrement. Et en tant que croyant, et en tant qu'être humain aussi, avec la nature pécheresse, je pense qu'on a tendance parfois à oublier des principes vraiment de base, principes élémentaires de la vie chrétienne, mais on les oublie. On vit notre vie comme si ces principes-là n'existaient pas ou quoi que ce soit. On vit puis on oublie ces choses-là. Ce que je vais vous parler ce matin, ce dont on va voir dans Éphésiens 2, ce n'est pas des choses nouvelles pour vous. La plupart des chrétiens connaissent ce passage-là sur le bout de leurs doigts. Mais c'est des choses que Paul a mis par écrit. Pourquoi? Pour que les Éphésiens se souviennent de ces choses-là, se souviennent de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et aussi pour que nous, par l'apôtre Paul, Dieu a mis ces choses-là par écrit, pour que nous aussi, on s'en souvienne. Et puis, Paul va commencer l'épître aux Éphésiens, pour mettre en contexte, va commencer l'épître aux Éphésiens en énumérant des bénédictions au chapitre 1, plein de bénédictions que les chrétiens ont reçues en Jésus-Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. On a été rachetés par son sang. Plein de choses en lui, les bénédictions que nous avons reçues en Christ. Et puis après, Paul, dans la fin du chapitre 1, va avoir une prière que les gens, que Dieu ouvre les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent saisir quel est l'amour de Christ. Début du chapitre 2, Paul expose et présente justement comment s'est manifesté l'amour de Dieu. Et si on a cette prière en nous, que Dieu nous ouvre les yeux de notre cœur afin de comprendre l'amour que Christ a eu pour nous, je pense qu'on a besoin de se rappeler ce qui est écrit dans le chapitre 2. Et on va lire, on va regarder ensemble trois faits importants qui sont arrivés dans la vie du croyant. Trois faits importants qu'on ne devrait jamais mettre en oubli et qu'on devrait toujours se souvenir. Premièrement, le croyant devrait se rappeler l'état où il était avant de connaître Jésus-Christ. Deuxièmement, ce qu'il est devenu en Jésus-Christ. Et troisièmement, pourquoi il est devenu ainsi, pourquoi Dieu a opéré ce changement-là dans sa vie. Trois faits importants dans la vie du croyant qu'on doit se rappeler. Ce qu'on voit dans les versets 1 à 3, ce n'est pas quelque chose de très rose. L'apôtre Paul dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Et ça, ce n'est pas très rose. Et parfois, on aurait tendance à dire « Pourquoi j'ai besoin de me rappeler de ça? Pourquoi j'ai besoin de me rappeler ce que j'étais avant? » Et une des choses, je pense, pourquoi on devrait s'en rappeler, c'est pour nous rappeler de la grandeur de l'amour que Dieu a eu pour nous. Et puis, la première chose que Paul mentionne et qu'on devrait toujours se rappeler, c'est que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et même si on entend de moins en moins le mot « péché » mentionné dans notre société, de nos jours, le mot « péché », ça n'existe comme pas, ça ne change pas rien au fait que le péché, c'est réel. Mais qu'est-ce que c'est le péché en réalité? Qu'est-ce que c'est exactement? Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, la désobéissance à la loi que Dieu a donnée. Dans notre société, on parle du non-respect de la loi, c'est de ne pas respecter la loi que Dieu a placée. On voit dans les premiers chapitres de la Genèse, dans Genèse 2, que l'homme, dans Genèse 3, entre autres, que l'homme a péché. Dans Genèse 2, Dieu avait donné cette loi. Dieu devait donner une loi à l'homme, que l'homme devait obéir. Il n'avait juste une règle. Vous vous souvenez, c'est quoi? Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et on voit tout de suite après dans le chapitre 3 qu'Adam et Ève ont péché. Qu'Adam et Ève sont tombés, ont péché, et ça a eu un changement. C'est venu bouleverser l'ordre créationnel, l'ordre que Dieu avait créé dans l'univers. Mais on voit qu'ils ne sont pas morts immédiatement. Adam et Ève ne sont pas morts aussitôt qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand est-ce qu'ils sont morts? Ils sont morts un peu plus tard. Alors, de quelle mort est-ce que cette mort parle-t-elle? Que quand Dieu dit « Le jour où tu en mangeras, tu vas mourir », c'est le jour même que tu vas mourir. La mort qui est décrite dans Genèse 2 et aussi dans Éphésiens 2, c'est une mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Et c'est ce qu'on voit. Lorsque Adam et Ève ont péché, eux qui avaient une relation intime avec Dieu, une relation, ce qu'on va vivre dans le ciel, finalement, une relation intime avec Dieu, avec des qui n'avaient pas honte d'eux-mêmes, tout ça, c'est venu bouleversé. Lorsque le péché est entré dans le monde, c'est venu briser la relation avec Dieu. Et puis Adam et Ève n'avaient plus cet accès privilégié dans la présence de Dieu. Cet accès privilégié leur était coupé. Et la mort spirituelle, c'est ça. C'est ça la mort. C'est que nous sommes séparés de Dieu. Séparés de Dieu. On voit, entre autres, dans Romains 5, qu'on est séparés de Dieu à cause d'Adam. Oui, je suis en train de parler d'Adam et Ève, mais qu'est-ce qui nous concerne, nous, maintenant? Bien, Romains 5 nous éclaire là-dessus et nous dit qu'à cause d'Adam, à cause du péché d'Adam, la mort et le péché s'est répandu sur tous les hommes. Et nous sommes, à ce que je sache, pas mal tous descendants d'Adam et Ève. Et à cause de ça, pécheurs, morts spirituellement, séparés de Dieu pour l'éternité. Par nature, nous sommes tous, sans exception, morts spirituellement. Et c'est de cet état-là que l'apôtre Paul est en train de parler dans Éphésiens 2. Aussi la mort spirituelle qui décrit la relation, la séparation avec Dieu, mais aussi elle décrit l'incapacité de l'homme à entrer en relation avec Dieu. C'est impossible pour l'homme de faire quoi que ce soit par ses propres forces pour rentrer en relation avec Dieu, pour enlever le joug du péché qui est sur lui. Et à cause de ça, la personne qui est morte spirituellement, à cause de son péché, du péché d'Adam et de son péché à elle aussi, est morte spirituellement et séparée de Dieu pour l'éternité. Le passage continue au verset 2 et décrit qu'est-ce qui caractérisait notre vie alors que nous étions morts dans nos péchés. Verset 2 dit « Dans lesquels vous marchiez, vous êtes morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Paul mentionne qu'on marchait dans nos péchés. Nous étions en train de marcher dans nos péchés, tout ce qu'on était capable de pratiquer, incapable de faire le bien, donc on marchait, pratiquait continuellement le péché dans une relation séparée de Dieu, abandonnée par Dieu et en plus qui ne cherchait pas à lui plaire. Parce que nous étions aussi, verset 3, on marchait selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. On n'était pas en train de chercher à faire la volonté de Dieu, mais au contraire, on était en train de chercher à satisfaire la chair, satisfaire nos passions, nos pensées. Et Paul va plus loin et dit que par nature, à cause de nos péchés, nous étions des enfants de colère comme les autres. Nous étions des enfants de colère et la colère de Dieu reposait sur nous à cause de notre péché. Dieu, qui est tellement saint, tellement juste, ne pouvait pas accepter qu'un pécheur comme moi entre dans sa présence. Et à cause de ça, la colère de Dieu reposait sur moi. J'avais transgressé la loi de Dieu. J'étais coupable, coupable. Et la colère de Dieu demeurait sur moi et j'étais coupable, destiné à la mort éternelle, au jugement de Dieu. Et c'est ça la colère de Dieu. Destiné au jugement éternel. Et là encore, ce n'est pas très populaire de parler de ça ces temps-ci. Le jugement éternel que Dieu juge et qui va envoyer dans l'enfer les hommes qui ne se seront pas repentis, qui n'auront pas cru au sacrifice de Christ à la croix. Et c'est là que je m'en allais. J'étais jugé par Dieu parce que sa colère était sur moi. Tout ce que je méritais, c'était l'enfer pour l'éternité. C'est quelque chose de dur, très dur, et ce n'est pas très beau à parler. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'instant. Ça, c'est la mauvaise nouvelle qui fait partie du message de l'Évangile. La mauvaise nouvelle, c'est que j'étais mort dans mes péchés. J'étais perdu à cause que j'étais sous l'emprise du diable. J'étais conduit par mes passions, mais aussi j'étais sous la colère de Dieu. Mais heureusement pour nous, le passage ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose de bien qui s'y arrive après. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on était mort. Mais Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un « mais » au verset 4, et on va le lire ensemble. « Mais Dieu, vous voyez qu'est-ce qui est en train de se passer ici, là? On était séparés de Dieu, sous la colère de Dieu, et dans le fond, tout ce qu'on méritait, c'était la colère de Dieu. Mais là, il arrive quelque chose qui vient changer la tournure des événements. « Mais! » Puis quand je vois un « mais » dans les Écritures, ça, j'aime ça. « Mais! » « Mais quoi? » Oh! Là, la bonne nouvelle arrive. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Et c'est là la deuxième chose qu'on doit se rappeler. Premièrement, on doit se rappeler qu'on était mort dans nos péchés. Mais on doit se rappeler aussi que Dieu est intervenu dans l'histoire de l'humanité pour qu'on puisse être rendu vivant avec Christ. J'étais mort par mes offenses, mais Dieu est intervenu pour que maintenant je sois ressuscité et que je sois vivant. Dieu a manifesté sa grande miséricorde envers nous, malgré le fait qu'on était sous sa colère, sous le jugement. On méritait juste le jugement éternel, l'enfer pour l'éternité. Mais Dieu, dans son amour, a vu ma misère, puis a tout déployé pour venir me secourir là où j'étais. Il ne nous a pas laissé dans notre état de mort, dans la mort que nous étions, mais il a démontré envers nous sa grâce infinie. Et c'est pour ça que nous sommes maintenant vivants, parce que Dieu a montré sa grâce. Mais comment ça s'est passé? Comment Dieu a pu nous rendre vivants? La première chose qu'il faut voir, premièrement, c'était le problème. Pourquoi j'étais mort? On l'a vu tantôt. J'étais mort à cause de mes péchés. Donc, si j'ai besoin d'être rendu vivant, il faut qu'il se passe quelque chose avec mes péchés. N'est-ce pas? On va vous l'illustrer d'une façon que souvent on emploie lorsqu'on explique l'Évangile à des gens. C'est juste... On est là pour se rappeler, n'est-ce pas? Et je vous le rappelle. Imaginons une balance, OK? Une balance qui est à son juste milieu, OK? Et puis, d'un côté, il y a mes péchés. Et puis, qui fait que la balance penche. Pour être juste devant Dieu, il faut que la balance soit équilibrée. Il faut qu'elle soit juste. Il faut qu'elle soit à son juste milieu. Mais mes péchés sont dans la balance. Et puis, la balance penche d'un côté. Et puis, la parole nous dit que je ne pouvais rien faire pour mettre quelque chose de l'autre côté. Quand même que j'essayerais de faire du bien ou quoi que ce soit, je ne peux rien faire pour venir essayer de l'équilibrer. Alors, si ça penche d'un côté puis que je ne peux pas mettre le rien de l'autre côté, qu'est-ce que ça prend pour que ça revienne comme il faut, pour que ça revienne juste? Eh bien, Paul parle dans le chapitre 1 de Éphésiens de qu'est-ce qui a été fait. Versets 7 et 8. Il parle des bénédictions qu'on a reçues en Jésus-Christ. Il dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Qu'est-ce qui devait arriver à mes péchés devant Dieu pour que la balance et que Alexandre redevienne juste devant Dieu? Il avait besoin que ces péchés-là disparaissent, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu a fait en Jésus-Christ? Il a envoyé son Fils mourir à la croix, prendre ma place à la croix, donner sa vie en sacrifice, afin que par son sang, je puisse être lavé, pardonné de mes péchés et purifié, et qu'Alexandre devienne juste devant Dieu, et que je puisse avoir accès à la gloire éternelle. Dans Ésaïe, au chapitre 53, et puis je vais juste vous le lire, on lit qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait exactement à la croix. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et c'est ça qui s'est passé à la croix. C'est que Jésus a pris sur lui mon péché, a été frappé de Dieu, condamné comme un coupable à ma place. Lui qui n'avait rien fait de mal a pris sur lui mon péché. Et puis par cela, par le sang versé, j'ai pu avoir la vie éternelle, être pardonné de mes péchés et maintenant paraître juste devant Dieu. En plus, on voit dans Éphésiens 2 qu'une fois que le Seigneur m'a pardonné de mes péchés, qu'est-ce qu'il a fait de mort que j'étais? Il m'a rendu vivant avec Jésus-Christ. Il nous a ressuscité, verset 6, il dit, il nous a ressuscité ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il m'a ressuscité avec Christ et il m'a fait asseoir dans les lieux célestes. Mais qu'est-ce que c'est ça exactement, ce langage-là? Dieu m'a fait asseoir dans les lieux célestes. Ce n'est pas tout le temps évident à saisir tout de suite comme ça, il faut chercher un peu. Des fois. Mais je pense que Dieu nous a donné accès à sa présence. Lorsque on a été rendu vivant, la mort spirituelle, c'était d'être séparé de Dieu. Maintenant, la vie, c'est d'être entré à nouveau en relation avec Dieu. Et maintenant, j'ai accès au trône de Dieu, à la présence de Dieu. J'ai accès à un sauveur merveilleux, à un Dieu qui comble tous mes besoins. Et maintenant, j'ai une relation intime avec Dieu parce que j'ai été rendu vivant spirituellement par la mort de Christ. Et aussi par sa résurrection, parce que si Christ n'était pas ressuscité, je serais encore mort dans mes péchés, nous dit 1 Corinthiens 15. Et on l'a chanté tout à l'heure ensemble, « Mort, où est ta victoire? Le tombeau est déserté. » Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts pour que moi aussi je puisse être vivant et vivre pour l'éternité avec lui. Et maintenant, j'ai accès à sa présence. Dieu a renversé le mur de la séparation du péché pour que je puisse entrer dans la présence de Dieu. Ma femme, je parle souvent de ma femme, hein? Je l'aime, c'est pour ça. Ma femme écoute souvent une émission à la télévision. Ça s'appelle Les anges de la rénovation. Connaissez-vous ça? Ah ouais, ah, les femmes aiment ça, ça. Hein? Ça fait pleurer, puis ouais, c'est ça. Pas toutes les femmes, OK, c'est correct. Mais, ouais, quelques hommes aussi. Hein? Ben, moi, c'est ça. On a un petit, je vais vous partager ça. On a un petit inside entre moi et ma femme. Lorsque les émotions montent un peu, lorsqu'on écoute de quoi à TV, là, je la regarde, puis je me mets à rire parce qu'elle est en train de pleurer, fait que je m'empêche de pleurer. Fait que là, comme ça, je suis correct. Pleure pas trop. Mais ça, c'est entre nous autres, OK? C'est l'orgueil, hein? Oh boy, oh boy. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Bon, bien, ce que je voulais dire, c'est que les anges de la rénovation, vous connaissez l'histoire, ils prennent une maison toute délabrée, les gens qui vivent dans des difficultés, des fois les gens handicapés, des situations absolument pas adaptées pour eux. Et puis, ils renversent ça, mon ami, puis ils font une maison, c'est plus qu'une maison, c'est un palais quasiment. Des fois, là, c'est équipé ces affaires-là, c'est fou. Fait que là, la maison toute équipée, mais ces gens-là sont pas là, hein, sont pas là. Ils n'ont pas encore accès à leur nouvelle demeure. Mais quand ils arrivent, et puis que là, c'est le temps de présenter la maison, qu'est-ce qu'il y a en avant? Il y a un autobus, hein? Un autobus. Puis là, l'animateur, il dit, « Move that bus, ôte-toi l'autobus, donne-y l'accès à sa nouvelle maison. » Mais c'est un peu ça que Dieu a fait pour nous, n'est-ce pas? On a une maison déjà que Dieu est en train de préparer pour nous, mais pour y avoir accès, j'ai besoin du pardon, j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin de renverser le mur qui me sépare de cette demeure-là, de cette relation avec Dieu. Et puis Jésus-Christ est venu renverser, est venu enlever l'autobus de mes péchés, la séparation. Et puis maintenant, j'ai accès au palais, mon ami, les lieux célestes, le royaume de Dieu pour l'éternité. Amen! Amen! Oh boy! Dieu a fait des grandes choses pour nous. Il est venu nous délivrer. Et c'est ça qu'on doit se rappeler. C'est qu'on était rendus, de mort que nous étions, on était rendus vivants avec Christ. Et maintenant, nous pouvons habiter dans la présence de Dieu. Paul poursuit au chapitre, au verset 8 et 10, 8 à 10. Et Paul vient de tout expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on était quand on était mort et qu'est-ce qu'on est devenu en Jésus-Christ, on est rendu vivant. Et maintenant, il va résumer en des mots faciles à retenir. Qu'est-ce qui était expliqué dans les premiers versets? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Première chose que Paul utilise comme terme pour résumer tout ce qui s'est passé, c'est que le salut, j'ai été sauvé, j'ai eu une relation avec Dieu maintenant, j'ai une relation avec Dieu, mais c'est par la grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est par sa grâce que je suis sauvé. Et une grâce, c'est quelque chose que je ne mérite pas. C'est quelque chose qui m'a été donné, que j'ai reçu, que le Seigneur m'a donné et que maintenant j'ai, par sa grâce, j'ai accès à sa présence. Mais Paul parle aussi du moyen par lequel on doit obtenir cette grâce-là. On peut saisir cette grâce-là. Cette grâce-là, on la saisit par la foi. Et c'est là qui est important. C'est là ce qui est important. C'est que Dieu a manifesté sa grâce envers moi. Dieu a tout déployé en Jésus-Christ. Mais ce salut-là m'est offert. Et ce que j'ai besoin de saisir par la foi que Jésus seul peut enlever mon péché, peut me pardonner et me donner accès à la présence de Dieu. Seulement par la foi en Jésus-Christ, je peux être sauvé de mes péchés, être sauvé de la mort éternelle. Seulement par la foi, parce que c'est une grâce de Dieu. Ce ne sera pas par mes œuvres, parce que c'est pour personne se glorifier. Par mes propres œuvres, on l'a vu, ça ne donnait absolument rien. J'étais sous l'emprise du diable et tout ce que je faisais était contraire à la volonté de Dieu. Mais par la grâce de Dieu maintenant, par son esprit qui est venu m'ouvrir les yeux, je peux saisir par la foi, saisir que le sacrifice de Christ accompli à la croix est le seul moyen que je peux être sauvé. Et puis on connaît bien Jean 14, 6. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et cette grâce-là, on l'a saisie par la foi en Jésus-Christ. Ce que je fais, c'est que je ne me confie plus dans mes propres forces ou dans quoi que ce soit d'autre, dans une religion ou quoi que ce soit, dans le fait que je viens à l'église ou dans le fait que je suis en train de faire des bonnes choses pour Dieu. Je ne me confie plus là-dedans parce que je sais que ça ne se donne rien, absolument rien. Ça ne me permettra pas d'atteindre Dieu, mais il y a juste Jésus-Christ qui est le chemin. Et par la foi, je dis Jésus, j'ai dit Jésus, viens me sauver, c'est toi qui peux me sauver. Et c'est ça qui s'est passé avec nous. C'est ça qu'en plaçant notre foi en Jésus-Christ, on a eu le pardon de nos péchés et on ne doit jamais oublier et toujours se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais toi qui es ici ce matin, tu n'as peut-être jamais saisi ce pardon-là par la foi. Je t'ai parlé de ce que Jésus a fait à la croix. Jésus est prêt à pardonner tes péchés. Dieu veut que tu arrêtes de te confier dans tes propres forces. Dieu veut te donner la vie éternelle. Il veut que tous viennent à la repentance. Il veut te pardonner tes péchés. Mais tu as besoin de comprendre que Jésus est le seul moyen d'avoir la vie. Le sacrifice de Jésus seul peut te laver de tes péchés et te donner l'accès à la vie éternelle. Tu as besoin pour ça de reconnaître que tu as péché contre Dieu, que tu as transgressé la loi de Dieu, que tu as désobéi à Dieu. Tu as besoin de reconnaître que ton péché te sépare de Dieu. Tu as besoin de venir au pied de la croix, te repentir de tes péchés, demander pardon à Dieu pour ces péchés, demander à Dieu de te pardonner par le sang de Christ et placer ta foi en Jésus. Et vivre maintenant une vie nouvelle en Jésus-Christ en pratiquant les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Ce que tu as besoin, c'est d'abandonner ta vie présente et de saisir la vie nouvelle par la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu attends? Si jamais tu as des questions, quoi que ce soit, sur ce que j'ai présenté ce matin, ce que la parole de Dieu dit sur le salut, sur l'Évangile, je vais être à la porte tantôt. Gêne-toi pas. Viens me voir. Je vais essayer de répondre le mieux possible à tes questions. Mais saisis cette vie éternelle que Dieu t'offre, cette grâce que Dieu t'a offerte par la croix, à la croix en Christ. Maintenant, je pourrais terminer le message ici, puis m'en aller, mais je pense que j'aurais manqué un peu le but du texte ici. Il resterait une question dans votre esprit. Vous diriez probablement, d'accord Alexandre, c'est beau, c'est important de se rappeler ça. C'est important de se rappeler ce que Jésus a fait, que j'étais mort, que Jésus m'a rendu vivant, que Dieu m'a rendu vivant en Christ. Mais pourquoi j'ai besoin de me rappeler de ça? À quoi ça sert de m'en rappeler? Pourquoi c'est important? Parce que Dieu avait un but derrière ça, n'est-ce pas? Dieu avait un but, et le but, son but, c'était que plutôt que de te glorifier toi-même dans ton ancienne vie, il t'a rendu vivant afin que tu le glorifies dans une vie nouvelle. Dieu t'a sauvé pour que tu puisses le servir et pratiquer des œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. On doit se rappeler que Dieu nous a sauvés par grâce pour sa gloire. C'est pour Dieu qu'on a été rachetés de nos péchés. C'est pour le glorifier maintenant. C'est plus pour se plaire à nous-mêmes, mais pour plaire à celui qui m'a sauvé. Et me rappeler de sa grâce, me rappeler que j'étais mort dans mes péchés, me rappeler que je suis maintenant vivant, ça me rappelle que Dieu avait un but derrière ça. Et ça devrait me pousser maintenant à vouloir glorifier Dieu maintenant. Glorifier Dieu par ma vie et par les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Le texte nous dit que je suis une nouvelle créature. Ayant été créé en Jésus-Christ, j'ai été nouvellement créé en Christ. Pourquoi? Pour accomplir des bonnes œuvres. Pour marcher, littéralement, dans les nouvelles œuvres, dans les belles œuvres que Dieu a préparées pour moi. Avant, je marchais dans mes péchés, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois marcher dans les œuvres que Dieu a préparées pour moi. Il y avait un but derrière ça, c'est que je ne marche plus dans mes péchés, mais que je marche pour glorifier Dieu en pratiquant les œuvres bonnes que lui-même a préparées pour moi. Et qu'est-ce que ça devrait faire, que la grâce de Dieu envers moi? Ça devrait provoquer en moi un amour en retour, un amour pour mon Sauveur, un amour pour Dieu qui va me pousser à mettre à l'œuvre pour lui. Je devrais être en train de chercher autour de moi, c'est quoi les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour moi? C'est quoi les bonnes œuvres que je peux faire là, maintenant, aujourd'hui, tout de suite quand je m'en vais tantôt, pour glorifier Dieu? C'est ça que je devrais être en train de faire. Parce que c'est pour ça que j'ai été sauvé. J'ai été sauvé pour glorifier Dieu puis pratiquer les bonnes œuvres. Je vais vous donner quelques exemples des choses que vous pouvez faire demain matin. Okay? Qu'est-ce que je peux faire? Là, je m'en vais tantôt ou demain matin, je rentre au travail. Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les œuvres que Dieu a préparées pour moi? Il y a peut-être un collègue de travail, un collègue de classe, un ami, quelqu'un de ta famille, à qui tu n'as jamais partagé l'Évangile de Jésus-Christ, ce merveilleux salut qu'on vient de parler. Cette personne-là, elle sait peut-être que tu es un chrétien, elle trouve peut-être que tu es une bonne personne, tu as un bon témoignage, entre guillemets, mais tu n'as jamais ouvert la bouche pour présenter le salut de Jésus-Christ, ce que tu as reçu, la grâce de Dieu que tu as reçue. Pourquoi tu ne prends pas le temps de te rappeler qu'est-ce que tu étais avant et cette personne-là est dans cet état-là? Tu étais mort dans tes péchés, mais cette personne-là est morte dans ses péchés aussi. Elle a besoin d'entendre le message de l'Évangile. Elle a besoin d'entendre la grâce de Dieu. Pourquoi tu ne planifierais pas un lunch, par exemple? Tu dis, hey, viens luncher. Tu sais que je suis un chrétien. Je ne t'ai jamais parlé ouvertement de Jésus-Christ. J'aimerais ça te partager ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Et priez pour cette personne-là avant d'y aller. Priez que Dieu ouvre son cœur. Parce que c'est pas par nos propres forces qu'on réussit à convertir quelqu'un. C'est vraiment Dieu qui fait l'œuvre dans le cœur de la personne. Mais Dieu veut qu'on ouvre la bouche. Dieu veut qu'on partage ce qu'on a reçu. On ne le garde pas pour nous, mais qu'on le partage aux autres autour de nous. Prends le temps, planifie-le. Prie et dis, mardi midi, je m'en vais dîner avec Joe Blow. Puis je partage l'Évangile. Il a besoin de l'entendre. Peut-être qu'il va te rejeter. Il est mort dans ses péchés, c'est normal. Okay? Peut-être qu'il va rejeter le message. Il ne le recevra peut-être pas tout de suite, mais continue de prier pour lui. Continue de te mettre à genoux et prie pour son salut. Une autre chose qu'on peut faire, c'est quoi les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour moi puis que la grâce de Dieu m'enseigne? Pardonner à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un, présentement, est un conflit. Tu as un conflit actuellement avec une personne puis tu n'arrives pas à la pardonner, à pardonner cette personne-là. Il y a une relation qui est brisée, peut-être avec un frère, une sœur dans l'Église, ou peut-être avec quelqu'un dans ta famille. Je pense qu'une des choses que la grâce nous enseigne, c'est de démontrer la grâce de Dieu envers les autres, en pardonnant comme Dieu nous a pardonné. Peut-être que tu as quelqu'un, attends, en tête, tu as besoin de pardonner à cette personne-là. Prie le Seigneur que Dieu te donne un cœur prêt à pardonner à cette personne-là, comme lui nous a pardonné. D'autres choses. Et puis, je pense que je pourrais terminer avec ça. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Des fois, on n'a pas besoin de chercher bien, bien loin. Il y a tellement de ministères dans cette église ici. Vous l'avez entendu, on entend tous les dimanches des occasions de servir puis des œuvres préparées d'avance pour tous les chrétiens de l'Église de l'Espoir. Que ce soit une bouffe pour tous qui a besoin de bénévoles les mercredis soirs, les jeudis. L'école du dimanche, hein, Danny? Toutes les années, on cherche des gens pour l'école du dimanche, les moniteurs, tout ça. La pouponnière, la garderie qui a besoin de gens pour s'occuper. Le comité de bâtiment qui a besoin de bras pour prendre soin de ce que Dieu nous a confié ici, dans ce bâtiment-là. Tellement de choses autour de vous. Êtes-vous prêt, par amour pour Dieu, à l'aimer, à aimer Dieu, à cause qu'il t'a aimé, puis à te mettre à l'œuvre avec un cœur passionné pour Dieu? On s'est donné une devise ici, une passion pour Dieu. Es-tu prêt à avoir une passion pour Dieu? Dieu t'a tellement donné, Dieu t'a aimé passionnément, tu devrais vouloir chercher à le glorifier maintenant. Dieu nous a sauvés par grâce, pour sa gloire. Et c'est, s'il y a quelque chose que vous devez vous rappeler ce matin, c'est ça. Dieu t'a fait passer de la mort à la vie, par sa grâce, pour que tu vives maintenant à sa gloire, pour que tu le glorifies pleinement par ta vie. Lui qui nous a tant aimés, n'est-il pas digne de recevoir des cœurs passionnés pour sa gloire? On va se courber. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce pour ton amour pour nous. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu nous as tant aimés en Jésus-Christ. Seigneur, j'étais mort dans mes péchés. J'étais perdu. Tout ce que je méritais, c'est le jugement de Dieu pour l'éternité. Mais dans ta grâce, tu m'as manifesté Jésus-Christ. Tu m'as ouvert les yeux afin que je saisisse par la foi ce merveilleux salut. Tu as transformé ma vie, Seigneur. Tu m'as donné un cœur nouveau qui me pousse à te glorifier, à te servir. Fais en sorte que mon cœur soit sans cesse disposé à te plaire, disposé à te servir, à accomplir les œuvres que tu as préparées pour moi. Seigneur, je veux être à ton service. Et ma prière est aussi pour mes frères et sœurs, que nous puissions être ensemble, l'Église de l'Espoir, une Église prête à accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, tant de gens autour de nous ont besoin d'entendre ce merveilleux salut que tu as accompli pour nous. Seigneur, on veut te prier pour cette ville, pour la ville de Longueuil, pour toutes les centaines de familles qui viennent chaque semaine à Bouffe pour tous, à qui on donne la nourriture, qu'on aide, qu'on démontre la compassion. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir la bouche pour qu'on puisse leur partager ton évangile et qu'ils puissent saisir la vie abondante en toi. Seigneur, donne-nous des cœurs entiers pour toi, des cœurs prêts à te servir. Que ton nom soit glorifié et que notre lumière puisse briller dans cette ville et tout autour de nous, chacun dans nos milieux. C'est dans le nom de Jésus que je te prie ces choses. Amen. Jonathan va nous conduire dans deux chants pour terminer. Les chants qui nous rappellent la grâce de Dieu et qu'est-ce que cette grâce devrait changer dans notre vie. Je vous invite à vous lever, on va chanter ensemble.